Amen, gloire à Dieu. Dieu est bon. Oui. Dieu est bon. Quel enthousiasme. Et les vacances, ça vous fatigue à vous, hein? Je pense qu'il est temps que ça finisse. Ça va quand même, oui. On va parler de l'épreuve ce matin, le feu de l'épreuve et le chrétien dans ce feu de l'épreuve. Choses que la parole nous enseigne qui sont importantes et qui peuvent nous aider ce matin et qui peut t'aider particulièrement toi qui traverses une épreuve difficile ce matin. Les enfants, est-ce que vous connaissez Meshach, Shadrach et Abednego ? Je suis sûr, si je demande aux adultes, ils ne sont peut-être pas plus calés. Vous savez qui c'est, ces trois-là ? Charlotte, tu sais ? Non ? Ah ah ! Oh, c'était les amis de qui, si je vous pose la question comme ça ? De Daniel, oui, bravo ! Tes amis de Daniel. On va lire un passage qui concerne ces trois personnes qui ont eu à subir le feu de l'épreuve. Et on va voir que c'est intéressant de tirer le son de cette histoire qui nous est rapportée dans les Écritures, dans le livre du prophète Daniel. Et on va donc ouvrir ce livre au chapitre 3, les versets 14 à 26. Voilà. Il y a un problème au niveau du vidéoprojecteur. Bon, c'est pas grave. Ça va aller ? Pourtant, on a une professionnelle là-bas. Alors, je vous lis l'histoire. Nebuchadnezzar, c'était qui lui, tiens ? C'était un roi, oui. Oui, Zoé, t'as raison. Roi de quel pays ? C'est un pays qui n'existe plus aujourd'hui. Vous savez pas ? La Babylonie. OK ? C'était un roi très puissant. Son peuple, les Babyloniens, à l'époque où cette histoire est racontée, c'est le peuple le plus puissant qui est sur la terre. Et il est dit, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, on retrouve nos trois personnages, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ?» Nebuchadnezzar, il avait fait une statue à son effigie qui le représentait et voulait qu'on se prosterne devant elle. Mais comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils aimaient Dieu, le vrai Dieu, ils ne voulaient pas se prosterner devant un autre Dieu. Alors Nebuchadnezzar, il leur dit « Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, le chalumeau c'est un instrument de musique, hein, ici, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » C'était au milieu du feu. « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, roi. Sinon, c'est-à-dire s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Vous voyez, la colère, des fois, ce n'est pas bon conseiller. Parce que là, du coup, ils vont mourir plus vite. Donc moi, si j'avais été en colère avec eux, j'aurais fait radoucir le feu pour qu'ils meurent plus lentement. Mais la colère, ouais, bon, c'était une blague. Hein. J'aurais pas fait ça, j'aurais jamais mis personne au feu. Hein. Puis, Il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Les trois hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, écoutez bien, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. C'est-à-dire les hommes du roi, quand ils ont voulu jeter les trois personnes dans le feu, c'était tellement fort la chaleur qu'ils sont morts, brûlés. Incroyable. Les trois hommes, Shadrach et Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent, « Oui, certainement, au roi. » Et il reprit et dit, « Eh bien, je ne vois pas trois hommes, je vois quatre hommes qui n'ont pas de lien, qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Incroyable, non? Non? Bon, ben vous êtes. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les films qu'on voit, machin, il n'y a plus rien qui vous impressionne. Non, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Alors que les gardes, simplement s'approchant du feu, sont morts, brûlés, les trois hommes qui ont été jetés dans le feu, ils ressortent indemnes. C'est un miracle. Un miracle qui a eu lieu. Ce n'est pas une histoire qui est racontée comme ça, une belle légende. C'est un miracle qui a eu lieu. Ça s'est passé en vrai. Parce que Dieu est puissant. Le contexte de ce passage, c'est la déportation. Le peuple d'Israël a été envahi par ce roi babylonien. Il n'a pas envahi qu'Israël, il a envahi toute la région. À l'époque, c'était ça. Quand vous étiez fort, vous allez essayer d'envahir tous les autres pays autour. Et il a réussi à envahir Israël. Et donc, les habitants de ce pays, une partie s'est retrouvée déportée en Babylonie. Et certains ont été pris pour être mis au service du roi. Et Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego en faisaient partie. Ils servaient le roi. Et on voit que dès le départ, si vous lisez le chapitre 1 de Daniel, dès le départ, ils ont pris position pour dire « Ok, on a été déporté. Ok, on est dans un autre pays. Mais par contre, on restera fidèle à notre Dieu. » Or, la Babylonie, ce n'était pas un dieu, c'était plusieurs dieux. Hein. Et notamment, le roi lui-même qu'il fallait adorer. Ce qu'on peut dire tout d'abord en introduction, c'est que ce récit montre une première chose, c'est que suivre Dieu, prendre position pour Dieu, ne nous épargne pas les épreuves. Il y a certains qui acquiescent et ils savent de quoi ils parlent. Et oui, ce serait tellement bien, et certains prédicateurs vous expliquent que si vous donnez votre vie à Dieu, vous ne serez plus malade, vous allez devenir riche, etc. C'est totalement faux quand on lit les Écritures. C'est tout le contraire qui nous est expliqué. D'ailleurs, même là, c'est justement le fait de suivre Dieu qui leur a attiré une épreuve. Parce que s'ils n'avaient pas suivi Dieu, ils seraient prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar et on ne les aurait pas mis dans le feu. Donc des fois, même c'est le fait de suivre Dieu qui nous attire des épreuves. Est-ce que cela doit nous faire peur? Ce récit nous montre que non, nous ne devons pas avoir peur. Et on va retenir deux principes ce matin de ce récit, et plus particulièrement du verset 25 que je vais relire avec vous. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Au travers de ce verset, on voit deux principes tout simples, mais tellement efficaces pour nous aider lorsque nous sommes au feu de l'épreuve. Le premier principe que l'on trouve ici, c'est que Jésus est avec nous dans l'épreuve. Oh, peut-être vous dites, mais de quoi il parle? Il parle de Jésus là, mais c'est l'Ancien Testament. Non, je parle de Jésus. Je parle de Jésus qui est avec nous dans l'épreuve. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, ce n'est pas que le chrétien n'a plus d'épreuve, mais c'est que le chrétien n'est pas seul lorsqu'il traverse l'épreuve. Et non seulement il n'est pas seul, mais celui qui l'accompagne, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Ce récit nous dit que Nebuchadnezzar a vu un quatrième homme dans le feu. Ça aussi, ça ne vous a pas impressionné, ça? Mais trois hommes dans le feu, et le roi, il regarde. Alors non seulement il voit que les trois sont debout, ils ne sont pas en train de se faire consumer par le feu, mais en plus, il voit un quatrième homme. Et qu'est-ce qu'il dit sur ce quatrième homme? Sa figure ressemble à celle des fils de Dieu. En fait, ce qui se passe là, on appelle ça une christophanie, c'est-à-dire une apparition de Christ. Et Christ, vous le savez, je l'espère, il n'a pas commencé à exister à Bethléem, dans la petite étable. Christ existe de toute éternité. Et il était là dans l'Ancien Testament. Et à plusieurs reprises, on note des apparitions de Jésus. Parfois, il est décrit comme l'ange de l'Éternel. Ici, c'est clairement Jésus-Christ qui est avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi est inspiré. Parce que vous savez combien les gens ont eu du mal à reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu. Et lui, il reconnaît que c'est un... Alors il dit, il est comme un fils des dieux, parce que pour lui, il n'y a pas un Dieu unique. Donc il parle avec son langage. Mais il a reconnu qu'il y avait une divinité sur ce quatrième homme. C'est Jésus qu'il voit. Dans l'épreuve, rappelons-nous d'une chose, ce n'est pas ce qu'on ressent qui reflète la réalité du monde invisible du royaume de Dieu, mais c'est ce qui est écrit dans sa parole. Et sa parole dit que Jésus est avec nous dans l'épreuve. Et il est vrai qu'au sein des épreuves, à des moments, la pensée humaine qui nous vient, c'est « Où est Dieu ? Que fait-il ?» Et même jusqu'à penser, il m'a abandonné. C'est un mensonge. Un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Et nous devons apprendre, non pas à nous fier à ce que nous ressentons, mais à ce que dit la parole. Et je pense que Shadrach, Meshach et Abednego étaient des hommes qui connaissaient les Écritures. Et les Écritures, je pourrais lire des dizaines de textes. Mais je vais prendre un passage dans le prophète Ésaïe, au chapitre 43, passage qu'on a lu avec les ados vendredi. Et on va lire des versets 1 à 5, enfin pas l'ensemble des versets, mais d'abord 1 à 3, et puis après une partie du verset 5. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. » Car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et puis au verset 5, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Amen. C'est là-dessus que Shadrach, Meshach, Abednego peuvent s'appuyer. Une des paroles, honnêtement, j'ignore si cette parole d'Ésaïe a été prononcée avant, qu'il soit en déportation ou après, mais comme je vous l'ai dit, la parole regorge de ce genre de texte. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont compris que ce qui devait les aider dans ce temps, ce n'est pas ce qu'ils ressentent. Ils devaient ressentir une frayeur, une peur intérieure. Quand on vous dit qu'on va vous brûler, voilà, même si on est enfant de Dieu, on n'est pas en train de rigoler là. Mais ils avaient une certitude, et ils l'ont dit au roi, que Dieu est avec eux. Et que Dieu est plus fort que Nebuchadnezzar. Amen. Ils le savaient. Ils ont même été soumis à la volonté de Dieu. Il dit, mais c'est pas un problème pour Dieu de te vaincre, d'être plus fort que toi. C'est en réponse à ce que dit Nebuchadnezzar. Oui, on va voir si un Dieu peut vous délivrer de ma main. Ils disent, mais mon pauvre Nebuchadnezzar, bien sûr que Dieu peut nous délivrer de ta main. Mais ils ont dit, sinon, s'il ne nous délivre pas, ça ne voudra pas dire qu'il nous a laissé tomber. Parce que même s'ils étaient morts dans la fournaise, où est-ce qu'ils allaient directement ? Au ciel, auprès de Dieu. Je ne pense pas que Shadrach, Meshach et Abednego ont eu des frissons, ils ont ressenti quelque chose de particulier. Non, ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Il y a une promesse pour nous dans le Nouveau Testament, à nous tous qui servons le Seigneur. Elle est dans Matthieu 28, au verset 20, la deuxième partie du verset 20. « Voici, je suis avec vous tous les jours. » On pourrait rajouter toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les millisecondes. Jésus est avec toi, mon frère, ma sœur. Il n'y a pas un jour où il a oublié, ah, j'ai oublié de m'occuper d'Alain. Tous les jours, il est avec nous. Amen. Ces trois hommes, je l'ai dit, pensent que même s'ils meurent, Dieu est avec eux. Je me suis posé la question, est-ce qu'eux-mêmes ont vu Jésus à côté d'eux ? La réponse n'est pas dans le texte. Apparemment, Nebuchadnezzar l'a vu. Est-ce qu'eux l'ont vu ? Je ne sais pas. Et ça m'a fait penser une chose, c'est que lorsque nous traversons les épreuves, mes frères et sœurs, nous ne voyons pas Jésus à côté de nous. On ne le voit pas. Mais si réellement nous sommes comme ces trois hommes, ceux qui sont autour de nous verront Jésus. Vous ne le croyez pas ? Ceux qui sont autour de nous verront Jésus. Combien de fois je peux témoigner d'avoir accompagné des personnes dans l'épreuve et j'ai vu que Jésus était là. Bien sûr, je n'ai pas vu Jésus, je n'ai pas eu une christophanie, mais sur le visage de la personne, sur la paix, la sérénité de la personne, j'ai vu Jésus. Amen. Que les autres puissent voir Jésus quand nous traversons l'épreuve. C'est surnaturel, n'essayez pas de le faire par vous-même. Mais Dieu peut nous accorder cette force. Amen. Il y a un autre texte dans le Nouveau Testament que Shadrach, Meshach et Abednego auraient pu s'approprier. Il se trouve dans Hébreux 13, au verset 6 et 7. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide ». Je ne craindrai rien. Amen. Que peut me faire un homme ? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait appel à regarder l'exemple, et notamment l'exemple des premiers apôtres, qui la plupart du temps, la plupart d'entre eux sont morts en martyrs. Et dit, imitez leur foi. Jusqu'au bout, ils ont tenu. Bon, on va le voir dans la deuxième partie. La deuxième partie, avant de l'annoncer, je voudrais relire le verset 25 qui nous sert de support. Il reprit Donc Nebuchadnezzar reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Le deuxième point, c'est que le feu de l'épreuve ne nous atteint pas. Le feu de l'épreuve ne nous atteint pas. Il y a deux expressions là dans ce verset. Il voit les hommes sans lien. L'épreuve peut devenir un lien sur notre vie. Est-ce que vous êtes conscients de cela, mes frères et sœurs ? L'épreuve peut devenir un lien. Un lien dans le sens où tout ce que nous voyons, tous les raisonnements et tout ce que nous disons est fait au filtre de l'épreuve. Et on ramène tout à notre épreuve. Il n'y a plus que ça, en fait. Il n'y a plus que notre problème, notre souci. Et on ne parle que de ça. Et on est tout le temps avec ça et ça. Et on rabâche et on est là. Et même dans nos prières, on ne parle que de ça avec Dieu. Ça, je vous le dis, c'est destructeur. C'est un lien mauvais qui va faire que vous allez ressasser et ne pas arrêter de vous laisser consumer par ce feu de l'épreuve. Et puis la deuxième chose qu'on voit dans ce que dit Nebuchadnezzar, ils n'ont point de mal. L'épreuve ne leur fait pas mal. Waouh. J'aimerais préciser qu'il s'agit de la dimension spirituelle. Si vous souffrez dans votre corps, vous avez mal, ne vous dites pas « Ah, mince, Dieu n'est pas avec moi, je souffre, j'ai mal, j'ai une douleur. » Ce n'est pas dans ce sens. On n'est pas touché par l'épreuve sur le plan spirituel. C'est quelque chose qui ne nous affaiblit pas, qui ne nous fait pas tomber. En principe, l'action du feu, c'est de consumer progressivement ce qu'on y jette. Vous êtes d'accord avec ça ? L'épreuve fait la même chose. Si on ne s'appuie pas sur le Seigneur, notre épreuve, petit à petit, elle nous consume. Elle nous détruit. Et nous avons besoin de suivre l'exemple de ces trois hommes pour dire non. Dieu est avec moi et le feu ne me fera aucun mal. Amen. Ici, le récit nous montre clairement que le feu ne consume pas les trois hommes. Est-ce que c'est parce qu'ils sont forts ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un gros mental ? C'est parce que Jésus est avec eux. Jésus est avec eux, mes frères et sœurs. Comme Jésus est avec toi. Avec Jésus, à nos côtés, le feu ne nous consume pas. L'épreuve ne nous atteint pas. Il y a des multiples exemples dans le Nouveau Testament. Jésus, dans le bateau de la tempête. Vous connaissez l'histoire, hein ? Les disciples, pourtant, qui étaient des pêcheurs, le métier de pêcheur, hein, ils pêchaient les poissons, ils avaient l'habitude d'être sur une barque. Ils avaient dû essuyer des tempêtes. Et bien là, ils sont complètement perdus, effrayés, se font consumer par l'épreuve. Mais ce qui va leur permettre de ne pas périr, c'est que Jésus est dans le bateau. Amen. Et est-ce que Jésus est atteint par l'épreuve ? Il dort. Il dort. Dans le bateau, il est en train de dormir. Ils disent, « Oh, Jésus, qu'est-ce que tu fais là ? Tu dors. » Mais Jésus, il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il sait déjà qu'il doit aller sur l'autre bord. Il le sait. Donc, ok, il y a une tempête, ça ne m'empêchera pas d'aller là où le Seigneur veut m'amener. Amen. Est-ce que vous croyez ça, mes frères et sœurs ? Est-ce que vous pensez que les tempêtes peuvent vous détourner de là où Dieu veut vous amener ? Non. Non. Sauf si vous oubliez que Jésus est avec vous et que vous vous laissez consumer. Il y a l'exemple d'Étienne aussi. J'aimerais lire avec vous dans le livre des Actes. Au chapitre 7, et versets 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Ces gens qui étaient furieux, c'était les chefs religieux de Jérusalem qui étaient énervés parce qu'Étienne était en train de leur expliquer que Jésus, c'était le Fils de Dieu, qu'il fallait croire en lui. Et eux, vous le savez, les chefs religieux, la plupart d'entre eux, ont refusé Jésus comme le Sauveur et ils l'attendent toujours d'ailleurs. Ils attendent toujours que le Messie vienne. Ils ne reconnaissent pas que c'était Jésus. Donc quand ils ont entendu Étienne parler de tout ça, ça les a énervés. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards où ? Il fixe les regards sur les hommes qui sont en train de le menacer ? Non. Il regarde par terre en disant « Oh, je suis foutu !» Il regarde au ciel. Il regarde au ciel. Et il vit la gloire de Dieu. Et il vit qui ? Jésus. Jésus debout à la droite de Dieu. Vous savez ce que nous dit la Bible ? Jésus à la droite de Dieu, il intercède en notre faveur. C'est ce qu'il a vu, Étienne. Il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Jésus est là, il nous apparaît dans l'épreuve. Amen. Il est notre rocher solide. Alors évidemment, quand ils ont entendu ça, les hommes religieux, le Fils de l'homme debout à la droite, ils poussèrent des cris en se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînent hors de la ville et ils le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Donc Paul était là au moment de la lapidation d'Étienne. Et il lapide Étienne qui priait. Qu'est-ce qu'il fait pendant l'épreuve ? Il prie. Et il dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Il ne dit pas « Jésus, sauve-moi, délivre-moi, fais quelque chose. » « Reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. Et il leur dit « Et il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Est-ce que vous croyez que Jésus était là ? Ah, moi, je peux vous dire que oui. Aucun homme ne prie pour que ses agresseurs soient pardonnés si Jésus n'est pas là à ses côtés. Pourquoi ? Jésus, c'est ce qu'il a fait à la croix, oui ou non ? Et si Jésus est là, nous aurons les mêmes pensées et les mêmes attitudes que lui. Amen. Et après ces paroles, il est dit, il s'endormit. Incroyable. Il s'endormit. Malgré les pierres, malgré les coups de la lapidation, la mort d'Étienne fut paisible. Il n'a pas été sauvé de la mort. Mais Jésus était avec lui. Ce n'est pas le résultat de dire, ah, il a été guéri, ah, il n'a pas été guéri. Alors, ah, celui qui a été guéri, Jésus est avec lui. Celui qui n'a pas été guéri, c'est pas comme ça que ça marche. Jésus est avec tous. Et si c'est le moment où il a décidé de nous reprendre, eh bien, il nous reprend. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec nous, qu'il nous a abandonnés. Bien au contraire, parce que nous, on raisonne à notre niveau de petit être humain. Mais lui, quand il nous prend avec lui, il est heureux de nous accueillir. Oui, non, il y a de la joie dans le ciel à chaque fois qu'un pécheur, un pécheur sauvé par grâce meurt, part de cette terre et monte au ciel. Amen. Il y a l'exemple de Paul aussi. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6. On va lire des versets 4 à 10. L'épreuve ne doit pas nous empêcher de continuer d'avoir un bon témoignage, mes frères et sœurs. Si l'Esprit de Dieu est fort en nous, nous continuerons d'être des gens agréables, des gens qui apportent la paix, des gens qui apportent la sérénité, le calme, même si nous-mêmes, nous sommes au sein de l'épreuve. Regardez ce que dit Paul. « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » Qui c'est qui a subi tout ça, là, ici ? Il y a quelqu'un qui a subi tout ça autant que Paul, là ? Je ne pense pas. Vous avez vu ce qu'il a accumulé ? Le feu de l'épreuve, il sait ce que ça veut dire. Regardez la réponse. La réponse. La pureté, la connaissance, la longanimité, la bonté, un Esprit Saint, une charité sincère, la parole de vérité, la puissance de Dieu, les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise, de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Vous avez vu ces contrastes ? Même si tu n'as rien, même si tu es pauvre, même si tu es malade, tu peux être une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Amen. Parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Paul, il dit cela, il ne fait pas que le dire, ce n'est pas juste un discours. Vous connaissez ce qui lui est arrivé avec Silas ? Battu, roué de coups, mis sous les fers. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec son compagnon ? Oh Seigneur, mais tu vois, mais c'est pas possible, on te sert. Mais Seigneur, quand même, on te sert. On passe nos journées pour toi, et voilà le résultat. On se retrouve en prison. C'est ça qu'ils ont dit ? Nous, on ne dit jamais ça. Ils ont chanté des cantiques à la gloire de l'Éternel. Incroyable, hein ? Ils ont chanté des cantiques à la gloire de l'Éternel. Chante des cantiques pendant ton épreuve, mon frère, ma soeur. Loue le Seigneur. Remplis-toi de louanges, d'adoration, parce qu'il en est digne. Toi, tu ne mérites rien. Nous ne méritons rien. Et si nous sommes malades, je ne vais pas dire que nous le méritons, mais ce n'est pas le fait de Dieu. Et c'est notre destin en tant qu'être humain corrompu, mauvais. Nous héritons toutes sortes de choses. Et nous n'avons rien à revendiquer devant Dieu. Nous avons juste à nous réjouir de ce qu'il est là, il est avec nous, qu'il est fidèle. Même si nous ne méritons pas, il a promis d'être fidèle et il va l'être. Et même si tu ne te comportes pas bien, il est quand même fidèle. Amen. Le résultat, l'issue, vous la connaissez, hein, pour Paul et Silas. Ils ont été libérés miraculeusement. Amen. Et par leur attitude, le geôlier et toute sa famille ont été sauvés. Amen. Mais oui, si tu as une bonne attitude, s'ils avaient râlé devant le geôlier, qu'ils avaient crié, ouais, qu'est-ce que t'as à nous taper, là, on n'a rien fait, tout ça, s'ils avaient, vous croyez qu'ils seraient venus vers eux pour leur dire, dites-moi ce qu'il faut faire pour être sauvés ? Mais il a été impressionné de voir ces hommes, après tout ce qu'on leur avait fait, le traitement qu'on leur a fait subir, est en train de chanter des cantiques. Vous croyez pas que dans sa maison, là, son logement de fonction, il devait dire, mais c'est quoi ces gars-là, ils sont barjots, quoi. Mais après, quand il a vu comment ils ont été délivrés, il a dit, non, ils ne sont pas barjots. Le Dieu qu'ils ont loué, c'est vraiment le vrai Dieu. Et Dieu veut se montrer au travers de ton épreuve, mon frère, ma sœur. Je conclue ce moment. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, c'est un type, une image du diable. Ce serait trop long à vous expliquer, mais il y a des symboliques comme ça dans la Bible. Et Babylone est une symbolique du diable, de son royaume, de l'enfer, en face de Jérusalem, qui est la cité de Dieu, qui représente la cité céleste, le paradis. Et donc le roi de Babylone, forcément, il représente le diable. Et j'aimerais que vous puissiez relire avec moi le verset 23. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment et il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? Vous connaissez la suite. Je note que le diable peut être effrayé. Vous le croyez ça ? Ou est-ce que c'est vous qui êtes effrayé quand on vous parle du diable ? Si Jésus est là à vos côtés, le diable est effrayé. Croyez-le, mes frères, mes sœurs. Si Jésus est à votre côté, le diable est effrayé. il a peur. Il va s'agiter, il va essayer de vous faire croire qu'il peut faire quelque chose. Mais dites-vous que si Jésus est à vos côtés, il a peur. Il y a deux principes dans le Nouveau Testament que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cette prédication. Le premier, on le trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et ce premier principe, c'est qu'aucune épreuve n'est trop forte. D'accord ? Aucune épreuve n'est trop forte. J'ai toujours eu du mal avec ce verset. Pas pour moi, bien que je vis des épreuves fortes, mais j'ai vu des gens vraiment accumuler les épreuves d'une manière incroyable. Et je me dis, mais Seigneur, et en fait, la parole dit, encore une fois, ce n'est pas ce que je ressens qui est la vérité, mais c'est ce que dit la parole. Et la parole dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, ça signifie l'épreuve aussi. Hein. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Et le deuxième principe, on le trouve dans Romains chapitre 8, verset 28, où il est dit, toute chose concourt à notre bien si nous aimons Dieu. Ça aussi, c'est difficile à admettre. Quand vous êtes au milieu du feu, dire ça concourt à mon bien. Oui, mais j'ai vu, et il m'est arrivé par la grâce de Dieu d'avoir ce raisonnement. Et j'ai vu des gens au milieu du feu dire, mais c'est quelque chose que Dieu va transformer en bien. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas faux, hein ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, rien ne peut te séparer de son amour. Même la mort. Le feu suprême, c'est la mort. Mais la mort, non seulement elle ne te sépare pas de son amour, mais elle te fait rentrer dans la plénitude de son amour. Amen. Nous ne craignons pas la mort, nous, chrétiens. Nous ne la souhaitons pas, mais nous ne la craignons pas. Parce que nous savons où nous irons. On l'a chanté tout à l'heure. On l'a répété plusieurs fois. tu ne m'abandonneras jamais. Vous le croyez ça? Tu ne m'abandonneras jamais. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Et je peux vous dire que même c'est plutôt dans l'épreuve qu'il se manifeste avec encore plus de force et qu'il manifeste encore plus sa présence. Ça ne veut pas dire que quand tout va bien, il n'est pas là non plus. Hein. Il est là aussi. Mais il sait qu'on a davantage besoin et il est encore plus présent. Il se montre davantage à nous. Il est là. Dieu veut se montrer à nous au travers de nos épreuves. Amen. Et je suis convaincu que Dieu veut appeler des personnes à lui au travers de l'épreuve. Et l'homme est fait de cette manière. Les gens qui viennent dans les églises sont rarement des gens qui n'ont pas de problème. Ils n'ont pas besoin de Dieu, moi, tout va bien. Et c'est quand ça commence à aller mal qu'on se dit, alors soit on se met en colère contre Dieu, ça c'est certains font ça, d'autres disent, eh ben Dieu, tu ne pourrais pas m'aider s'il te plaît. Et à ce moment-là, c'est le moment de venir. C'est l'occasion, c'est un bras que Dieu vous tend. Cette semaine, je suis allé assister une personne en fin de vie. J'ai pu m'entretenir avec elle dans les toutes dernières minutes de sa vie. Ça a été vraiment une grâce de Dieu. Et il y avait là à côté d'elle une personne et quand elle m'a raccompagné sur le parking, j'ai vraiment ressenti que Dieu la cherchait au travers de cette épreuve qu'elle vivait, du deuil. Et je lui ai envoyé un texto pour lui dire « Moi, je crois que le Seigneur vous cherche. Et si tu as une épreuve, et honnêtement, je vous le dis très sincèrement, il y a certaines épreuves sur ma vie, je remercie le Seigneur de me les avoir données. Je ne serais pas celui que je suis devant vous aujourd'hui si Dieu ne m'avait pas plongé dans de telles épreuves qui m'ont appris l'humilité, qui m'ont appris à dépendre entièrement de lui. L'épreuve, c'est bon pour nous. On ne la souhaite pas, je ne vous la souhaite pas, mais quand elle vient, dites-vous que c'est pour votre bien, que Dieu va travailler pour votre bien. Et vous ressortirez plus fort encore de votre épreuve. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier quelques instants. J'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes, fermer nos yeux. Et j'ai à cœur de prier peut-être pour ceux qui sont dans le feu de l'épreuve aujourd'hui. Si tu es dans le feu de l'épreuve et que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis pour toi, alors c'est bien. Et je crois qu'il y en a certains au milieu de nous qui vivent déjà ces réalités dont nous avons parlé. Mais peut-être que toi, en ce moment, et même si tu es converti depuis plusieurs années, ça peut arriver à tout le monde. Il y a un moment donné où l'épreuve est plus forte, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, elle nous submerge, elle est en train de nous consumer. Et le Seigneur te tend la main ce matin, il te parle, il dit « Arrête, ne te laisse pas consumer par l'épreuve. J'aimerais t'inviter à te lever à ta place. » Et on va prier ensemble, toute l'Église va prier pour toi. Si tu es au milieu de l'épreuve, tu as besoin du secours de Dieu, alors lève-toi à ta place. N'aie pas honte, on n'est pas là pour regarder, ah tiens lui, il n'arrive pas à tenir bon pendant l'épreuve, honte à lui. Mais non, on n'est pas en train de regarder les uns les autres. Je sais que moi, si aujourd'hui je suis fort dans l'épreuve, je sais que peut-être demain c'est moi qui serai en difficulté, qu'il faudra que les autres prient pour moi. Donc n'aie pas honte. N'aie pas honte, un chrétien dans sa marche peut avoir des moments difficiles, des moments où le diable a pris le dessus. Et alors le Seigneur, comme il le fait ce matin, il te donne une occasion de réagir. Il te donne l'occasion de te relever et de dire non, stop, je ne veux plus me laisser consumer par ce feu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de nous épargner du feu. Amen. Comme il l'a fait pour Meshach, Shadrach et Abednego. Amen. Je m'adresse aux enfants aussi. Est-ce qu'il y a des enfants qui peut-être vivent des moments difficiles? Ça peut arriver. Hein. On entend parler de harcèlement, des choses comme ça, des choses que les enfants peuvent vivre qui sont difficiles. Peut-être un enfant qui est malade, peut-être un enfant qui a des problèmes. Mais lève-toi à ta place. Si tu es un enfant, le Seigneur il veut te bénir aussi. Hein, je laisse encore quelques secondes. S'il y a besoin de la grâce de Dieu, lève-toi et le Seigneur va te bénir ce matin parce que ensemble, toute l'Église, nous allons prier pour tous ceux qui se sont levés ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord, l'Église, de prier avec moi? On va prier tous ensemble. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus maintenant que ta parole, que nous croyons être la vérité, que ta parole, nous croyons être la vie, fait son effet maintenant dans les cœurs par le Saint-Esprit. Que mes frères et sœurs qui sont debout, nous prions ensemble, toute l'Église, qu'au nom de Jésus, maintenant, ils se relèvent dans cette épreuve et qu'ils puissent réaliser que tu es avec eux, que le Fils de Dieu est avec eux et qu'il est dans le feu avec eux. Et que le fait qu'il soit dans le feu avec eux va les épargner d'être consumés par ce feu. Que tu puisses rappeler aussi à mes frères et sœurs que rien, rien ne pourra les séparer de ton amour. Que tu es là toujours auprès d'eux. Que cette épreuve qu'ils vivent, elle va concourir à leur bien. Elle va concourir à leur croissance spirituelle. Elle va concourir à augmenter leur foi, à asseoir leur foi. Oh Seigneur, merci de les bénir. Oh, je prie vraiment dans ton nom, Jésus. Tu vois mes frères, sœurs qui souffrent. Au nom de Jésus, viens les secourir et accorder la paix surnaturelle que tu as promis à tes enfants. Amen. Merci parce que tu le fais. Nous te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ayez une attitude de foi. Croyez que le Seigneur a vu votre appel au secours et qu'il vient à votre secours. Amen. Prenez des décisions par rapport. C'est pour ça que j'ai prié pour que la parole fasse son œuvre par le Saint-Esprit. Parce que c'est la parole de Dieu qui va vous aider maintenant à vivre différemment les choses. À partir d'aujourd'hui, parce que la parole vous a été donnée, vous n'allez plus vivre les choses comme hier, comme ce matin quand vous êtes venu, mais désormais différemment, parce que vous savez que Jésus, le Fils de Dieu, est avec vous et que le feu ne vous atteindra pas. Vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que cette épreuve ne sera pas au-dessus de vos forces. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis et encouragés. On est à votre disposition avec mon épouse. Si vous avez besoin de parler, de prier ensemble, bien, vous nous le dites et on prendra rendez-vous pour pouvoir vous soutenir dans ces moments difficiles. On va terminer par les annonces de la vie de l'Église. Voilà, s'il y a des gens qui sont de passage au milieu de nous, soyez les bienvenus. Si vous venez pour la première fois dans cette Église, on est très heureux de vous accueillir également. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est une joie pour nous de vous avoir au milieu de nous. Après le culte, je serai à l'aumônerie des prisons. Je serai au centre de détention à Muret. Merci de prier pour moi et pour les détenus qui ont vraiment besoin de la grâce de Dieu. Ce soir aussi, je vais commencer un cours pendant l'été pour les débutants, pour tous ceux qui veulent mieux connaître le béaba de la foi chrétienne. Donc, j'ai envoyé texto à tous ceux qui m'avaient dit que ça les intéressait. Mais si d'autres veulent se joindre, ils peuvent. À 18h, ici, à l'église, vous pouvez venir pour ce cours de débutants. On va voir dans un premier temps un peu, faire un panorama de ce qu'est la Bible, ce qu'elle enseigne. Et puis après, on aura l'occasion aussi, vous aurez l'occasion de poser des questions. Et on essaiera d'y répondre. Et de voir voilà, ce que vous avez besoin. Pour les autres fois, on se verra pendant l'été. D'accord ? Voilà. C'est ouvert, donc si d'autres veulent venir, il n'y a pas de souci. Mardi soir, nous avons la réunion de prière à 19h30 et à 20h30, la réunion d'évangélisation. Donc si vous voulez inviter quelqu'un pour écouter pour une première fois la parole, le message du salut, c'est le moment, vous pouvez l'inviter pour mardi soir. Dimanche prochain, à 9h45, nous aurons le culte. Et après le culte, nous aurons le pique-nique de Boucone, pique-nique du mois d'août. On a fait le pique-nique en juillet. Il faudra celui du mois d'août. Donc, vous amenez un repas froid. Si vous avez une petite chaise de camping ou des trucs comme ça, amenez-les aussi. Hein, si vous avez des tables de camping, amenez-les également. Et on aura le plaisir. Vous amenez les boules de pétanque, molki et tous ces trucs-là. Et on passera un bon moment agréable ensemble. Je vous rappelle qu'à la rentrée, il y aura une préparation au baptême. J'ai déjà quelques personnes inscrites. Si vous êtes intéressés, venez me voir. Je vous rappelle aussi qu'on cherche des animateurs, des aides-animateurs, des accompagnants pour enfants porteurs de handicap, également des personnes pour la garderie, pour la rentrée. Donc si vous avez à cœur de nous aider, bien manifestez-vous auprès de mon épouse Valérie. Les colos aussi cherchent des animateurs techniques, donc c'est le dernier appel que je vais faire puisque les colos d'août vont commencer. Si vous avez à cœur de servir le Seigneur, vous me le dites et je vous donnerai des adresses pour aller servir dans des centres chrétiens. Bénévolement. On continue la banque alimentaire. Merci de penser à ceux qui sont dans le besoin au milieu de nous. Il y en a plusieurs Et donc, pendant l'été, ils continuent d'avoir des besoins. Donc, vous avez une caisse à l'arrière de l'église, derrière, une caisse en résine ou en plastique, je sais pas. Bon, bref, peu importe. Vous y posez les dons que vous pouvez nous donner. Pas de denrées fraîches, hein. Pas de laitage, viande, légumes, etc. Que des denrées non périssables et également tout ce qui est produits d'hygiène ou d'entretien. Merci à vous, merci pour votre générosité. Inscrivez-vous pour le ménage aussi. Je ne sais pas si on a fait le plein pour l'été, Mario. C'est bon? Ok, super. Donc, merci à tous ceux qui se sont inscrits. Sur le site de l'église, vous allez sur le site de l'église de temps en temps ou pas? Ah, il y avait un site internet. Oui, il y a un site internet. Ouais, il y a plusieurs rubriques. Vous pouvez écouter la prédication, toutes les prédications du dimanche matin. Vous pouvez les écouter. Vous pouvez même vous télécharger un podcast pour pouvoir l'écouter sur votre téléphone, dans la voiture ou je ne sais pas où. Donc, ce site, il est important. Il est pour la vie de l'Église. Il y a les informations, les prochains événements, etc. Et il y a aussi des reportages sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Vous avez la rubrique actualité, vous avez les reportages, vous allez voir. Il y a un reportage sur les derniers baptêmes, la randonnée, les week-ends d'Église, etc. Donc, je vous invite à aller sur le site. Hein. Je trouve qu'il n'est pas assez visité par les membres de l'Église. C'est dommage. Et conseillez, recommandez-le aussi à des amis. Et notamment, vous l'envoyez le lien avec les prédications. Pour verser vos offrandes, je termine avec ça. Donc, c'est aussi sur le site internet. Vous avez un onglet Nous soutenir. Vous allez sur cet onglet et tout vous est expliqué. Carte bleue, chèque, virement. Vous pouvez tout faire. Et puis, si vous êtes fâché avec Internet, il y a la boîte aux lettres à l'entrée de l'église. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont fidèles, les fidèles de l'église et qui soutiennent l'église. Bien sûr, si vous êtes invité, vous venez pour la première fois, on ne vous demande pas d'argent. Hein, ne le comprenez pas comme ça. Alors, on va se lever, on va remercier le Seigneur. Il a vécu des bons moments en sa présence. On veut lui rendre gloire et grâce parce qu'il est là, il est fidèle. Je vais demander à Claire si elle veut bien terminer pour nous tous par la prière. Merci. Que Dieu vous bénisse.